Question d'Islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons de Abdelwahad Meddeb. Abdelwahad Meddeb comme islamologue, comme romancier, comme poète, comme un intellectuel. Il est aussi le producteur originel de cette émission, en tout cas de son ancêtre, puisqu'elle a changé de nom depuis. Il animait et produisait l'émission Culture d'Islam, devenue depuis lors Question d'Islam. Et pour évoquer cette grande figure, il n'y a pas mieux que Mahdi Qabbel, qui lui avait consacré une monographie très riche. Nous avons parlé d'Abdelwahab Meddeb lors de la sortie d'un film qui lui a été consacré. Pour nos amis auditeurs, parler d'un film à la radio était un peu compliqué. Maintenant, c'est rendre plus accessible un ouvrage avec son auteur qui se trouve être à la fois journaliste, écrivain, essayiste, un intellectuel musulman sur la place de Paris. Mahdi Qabbel, bonjour.
Bonjour Alain.
Alors, je crois que cette idée de consacrer un ouvrage à Abdelwahad Meddeb entre dans une logique de choisir une centaine d'intellectuels musulmans et les faire connaître au public d'une manière générale. Ou est-ce que je me trompe ?
Non, ce livre s'inscrit dans un projet piloté conjointement par l'Institut du monde arabe, notamment la chaire de Lima, et par la fondation, une fondation saoudienne indépendante. Et donc, l'idée, c'était de réhabiliter des figures non seulement arabes, mais également occidentales. Il y a par exemple Bachelard, il y a Freud, à côté de Mustapha Safouane, à côté de Hicham Jaïd, Abdallah Al-Aroui, Katib Yassine, et 101 livres qui sont consacrés, dédiés à ces personnalités qui, dans le monde arabe, ont marqué les esprits, mais également marqué toute une génération de chercheurs, d'intellectuels, et qui sont en quelque sorte des référents intellectuels qui sont encore agissants dans notre scène culturelle arabo-musulmane.
Alors, la genèse du projet, c'est de consacrer des ouvrages qui présentent donc ces intellectuels connus ou méconnus pour certains. Ça dépasse la sphère arabe, puisque vous nous avez parlé aussi d'intellectuels occidentaux. Mais comme ça touche aussi l'ère IRE civilisationnelle islamique, au-delà du monde arabe, on peut y trouver des intellectuels musulmans.
Oui, tout à fait.
Ce qui explique qu'Abdelwahad Meddeb s'y trouve.
Absolument. C'est un projet qui est élargi à l'ère musulmane. On trouve des figures, par exemple, comme Sahrawardi, des penseurs.
Sahrawardi, nous sommes déjà au XIIe siècle.
XIIe siècle. Et puis, également, d'autres figures qui sont issues de culture turque. Alors, bon, je ne vais pas détailler la liste, mais je pense que ce projet est destiné à montrer et puis à répondre à une question qui me semble importante, à savoir, est-ce que la culture arabe ou les cultures arabes peuvent sortir de l'amnésie? Et c'est ce que je dis, par exemple, dans le livre que j'ai consacré à Abdelwahad Meddeb. Il y a des figures, que ce soit des philosophes, des écrivains, des artistes, qui, un mois après leur mort, ou même de leurs vivants, sont enterrés vivants. On n'en parle pas, on n'en parle plus, et du coup, ces figures restent, c'est-à-dire elles tombent dans l'oubli. Et ce projet vient pour réhabiliter ces figures et créer du lien en montrant que ils sont encore agissants, ils sont encore présents par leur travail, par leurs idées, et que il n'y a pas eu de relève, malheureusement, générationnelle après le travail qui a été fait par ces historiens, ces sociologues, ces écrivains. Et ça, c'est l'un des déficits méthodologiques et culturels des cultures arabes aujourd'hui.
Alors, ils tombent dans l'oubli parce que leurs propres corréligionnaires ou leurs propres compatriotes, parce que dans le cadre de cette émission, nous déplaçons l'horizon au-delà du monde arabe, parce que leurs propres corréligionnaires ne s'y retrouvent pas ou sont plutôt dans une approche traditionnelle, religieuse, confessante des travaux sur la civilisation islamique ou arabo-islamique ou arabo-persano-islamique, ou est-ce que simplement leur œuvre n'a pas joui d'une renommée suffisante pour marquer les esprits, ou c'est selon?
Non, je crois que le problème qui se pose, c'est un problème d'éducation et aussi du niveau de la recherche et de la culture dans les sociétés arabo-musulmanes. On assiste à une régression inquiétante dans le niveau des connaissances, dans le savoir et dans la curiosité de la recherche pour pouvoir avancer et construire de nouveaux paradigmes et accompagner les crises de ces sociétés. Et je crois que aujourd'hui, il y a une facilité à manœuvrer, à pratiquer les réseaux sociaux beaucoup plus que s'attacher à faire un travail de recherche et aussi d'enquête pour voir et accompagner ces mutations des sociétés arabo-musulmanes. Donc, est-ce que les réseaux sociaux, peut-être qu'on dira un mot sur cet aspect de la crise ou des crises des sociétés arabo-musulmanes, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas affecté en mal les cultures arabo-musulmanes? Est-ce que ils n'ont pas retardé ce besoin de se cultiver et d'apprendre? Aujourd'hui, on apprend très très facilement, rapidement, mais au fait, ce que l'on apprend ne constitue pas une culture.
Oui, c'est ce que d'aucuns appellent la pensée jetable ou le prêt-à-penser comme ça. En vous écoutant, Matir Bel, j'ai pensé, et c'est la première fois peut-être que je dirais comme ça une anecdote à l'antenne, à cette fille, une jeune fille qui demande à sa maman de lui acheter un livre sur je ne sais plus quelle princesse, parce qu'elle avait envie d'étudier, de lire cette histoire. Et sa mère qui lui répond, écoute ma fille, le Coran te suffit. Si on en est encore à cette présentation des choses quant à l'éveil des esprits de la jeunesse, nous pourrions comprendre l'acuité de la crise que cette civilisation arabo-islamique connaît. Mmh. Revenons, si vous voulez bien, Mahdi Qabbel, à notre sujet, qui se trouve être l'objet de votre monographie, Abdelwahab Meddeb. C'est vous-même qui avez choisi de lui consacrer cet ouvrage, où il y avait une sorte de répartition auprès d'intellectuels, d'écrivains et d'auteurs pour compléter la galerie de ces grandes figures emblématiques de la pensée islamique ou arabo-islamique ou universelle.
Abdel Wahab Meddeb était un ami. D'abord, ensuite, je l'ai accompagné de loin dans son évolution. Et je remarquais que c'était un intellectuel, un écrivain, un poète d'abord. D'abord un poète parce que tout son travail tendait vers le poème, vers la poésie. Et on l'a fréquenté quasiment les mêmes personnes. On a baigné un peu dans la même ambiance effervescente des années 80-90 quand on est arrivé en France, puisque lui et moi, on a fait une sorte de d'exil heureux.
Parce que pour lui, il ne le subissait pas comme un exil et c'était soit un exil de tous les jours, y compris chez lui, soit un exil heureux, comme vous dites si bien, quand il n'était pas dans sa Tunis natale.
Oui, tout à fait, puisque la majorité des écrivains, des intellectuels maghrébins parlaient de leur présence en France ou en Europe comme s'il s'agissait d'un martyr. Et il y a toute une littérature autour de cet aspect de l'exil mortifère, de l'exil difficile, de l'exil où on se sent dans une espèce de ghorba absolu. C'est-à-dire...
Il n'est pas étonnant que le mot ghorba renvoie aussi à l'étrange,
à l'Occident,
au couchant du soleil.
Tout à fait. Et Meddeb, contrairement à ses écrivains intellectuels, lui, il se sentait dans son élément occidental. Et arrivé à Paris, Paris qui, à l'époque, était... vraiment une ville qui évoluait dans une dynamique culturelle et intellectuelle assez forte avec le structuralisme, avec le formalisme, avec le nouveau roman. Et on croisait Roland Barthes, on croisait Michel Foucault, on pouvait assister à leurs cours, on pouvait aussi... assister au cours de Kristeva ou prendre un verre avec Philippe Soller, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec ce qu'on appelle les nouveaux intellectuels, mais je ne sais pas s'il y a des intellectuels aujourd'hui en France, ça c'est une autre question. Donc, Abdel Wahab Meddeb, pour moi, était quelqu'un qui n'avait pas de compte à régler avec l'Occident. Il tendait vers une... interpénétration entre la civilisation musulmane et l'Occident. Il avançait l'idée selon laquelle l'islam fait partie de l'Europe, l'islam fait partie de l'Occident.
À un moment donné de l'histoire, il fut un Occident absolu. De 711 à 1492, au moment de la découverte du Nouveau Monde. Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas convaincu de la rotondité de la Terre, et quand on allait en terre d'islam, on allait à la partie la plus occidentale du monde connu.
Tout à fait. Et donc, c'est dans ce sens-là que, à Paris ou en Europe ou en Occident, il se sentait également une terre musulmane. Mais, évidemment, il souhaitait que l'islam soit gouverné par le droit et par la charte des droits de l'homme. Ce sont les deux exigences pour lesquelles il militait. Évidemment, viendra par la suite ce que j'appelle le moment des constructivistes dans son travail, quand il rencontre, quand il lit Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy, qui étaient les maîtres de la pensée de la différence, avec un A. Et à ce moment-là, sa critique de la théologie, sa critique de la métaphysique, elle commença à prendre forme. Et c'est pour cela que, pour moi, au même titre d'ailleurs qu'un autre intellectuel marocain qui a beaucoup inspiré Meddeb, Abdelkbir Khatibi, parce que Meddeb, il a repris un certain nombre de concepts empruntés au travail de Abdelkbir Khatibi, comme le tatouage, comme les signes païens qui nous habitent, qui habitent la culture maghrébine, comme les signes migrateurs. Tous ces concepts-là sont dus à Abdelkbir Khatibi et Abdelwahab Meddeb il y a une réappropriation donc de ces concepts pour les injecter, pour les orienter vers de nouveaux horizons dans son travail d'écriture et de recherche. Alors pour moi, Abdelwahab Meddeb était un choix, d'abord un choix personnel. Ensuite, il correspond à un moment culturel dont on avait besoin. Et évidemment, je dirais, son travail, pour ne pas dire sa pensée, elle est protéiforme, elle est multiple, elle est pluridisciplinaire. Et on ne peut pas, évidemment, la cerner ni la résumer en une seule formule, puisque il était en quelque sorte un touche-à-tout. Et surtout, son travail sur le soufisme et sa proximité avec Ibn Arabi, surtout, ont constitué pour lui toujours une fenêtre de tir sur l'islam archaïque et régressif qui a été congelé par des interprétations un peu, disons, régressive et primaire. Et de l'autre côté, Ibn Arabi lui a permis de forger une écriture, de bâtir un imaginaire qui lui a servi, évidemment, dans son écriture de poète.
Maintenant, nous qui sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et tout particulièrement aujourd'hui, nous évoquons la grande figure disparue trop tôt de Abdelwahab Meddeb avec vous, Mahdi Qabbel, qui est journaliste, écrivain, essayiste. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner très brièvement un peu sa trajectoire de vie? Il est né un 17 janvier 1946, décédé un 5 novembre 2014 à Paris, oui. Il est né à Tunis. Sa formation, son éducation, son adolescence, et puis comment est-il venu, son ascendance aussi, mais comment est-il venu après à Paris, juste après les histoires de mai 1968, mmh. Il est là au cœur des années 70, et après on abordera l'œuvre si vous voulez bien.
Mmh. Il est né le 17 janvier, et il est dans un milieu de lettrés, de religieux, puisque son père et son grand-père étaient des lettrés droit islamique, et puis
ils ont fait la Zaytouna, la Zaytouna, prestigieuse, voilà, université de Tunis.
Voilà, sont un peu le produit de cette université. Et Meddeb, il considère cette formation, il en parle d'ailleurs dans ses nombreux textes ou ses interviews, comme étant un peu le ferment qui lui a permis aussi d'être dans un corps à corps avec les textes religieux. Et la Zaytouna, elle n'a pas produit des illuminés comme on le voit aujourd'hui dans le monde arabe, où les mosquées, les institutions religieuses, ou tout au moins certaines d'entre elles, sont devenues un peu les fabriques aussi de ces idées extrémistes.
Et donc, où on y enseigne, pour utiliser un terme fort, des mensonges au regard de la connaissance historique, et en fabrique aussi des monstruosités.
Des monstruosités, voilà. Et puis par la suite, bon, à l'âge de 4 ans, il a appris le Coran. Ensuite, à l'âge de 6 ans, il a appris le français. Et il avait un engouement pour la poésie. Il en parle d'ailleurs. Il a dit que il lisait Apollinaire,
Rimbaud,
très tôt. Et donc, par la suite, il a quitté la Tunisie pour préparer une maîtrise à la Sorbonne. Il faut dire que le contexte à l'époque, quand il a quitté la Tunisie, était marqué par la fin du règne de Bourguiba, avec tous les problèmes, disons, économiques, les problèmes sociaux et problèmes politiques, évidemment, de succession, parce qu'il se posait beaucoup de questions sur sa succession. Et puis est venu le coup d'État médical entrepris par Ben Ali, qui a plongé le pays dans une espèce de ère policière. Et Meddeb, il n'était pas l'intellectuel engagé dans le sens politique du terme. Il s'est toujours tenu à l'écart des engagements politiques. Évidemment, il avait ses idées sur le régime, bien que par la suite, on verra, on lui a reproché d'être un peu en collusion avec le régime de Ben Ali. Mais ça, c'est évidemment le procès qui est fait de nombreux intellectuels quand ils ne prennent pas position franchement, directement.
Étranchés.
Voilà, étranchés. Et donc, en Sorbonne, il a commencé à préparer, à travailler sur l'histoire de l'art, parce que j'ouvre une parenthèse pour dire que Abdelwahab Meddeb, c'est quelqu'un qui est très sensible à la question de la beauté.
Et de l'esthétique, et de l'esthétique. Il le dit souvent.
Voilà. Et pourquoi ? Parce que, moi, à mon sens, au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés arabo-musulmanes, avec cette poussée de la laideur et des ruines...
Et du délabrement moral. Et...
Voilà. Donc, il n'y a plus de beauté. Et c'est pour cela qu'il était sensible à la beauté et il réactivait régulièrement le modèle andalou, que ce soit sur le plan de la musique, soit sur le plan de l'architecture, soit sur le plan de la poésie. Il disait, voilà, nous, pas par nostalgie, mais il disait qu'on est capable quand même de faire de belles choses et il est temps donc de revenir et de s'inspirer du modèle andalou, mais comme paradigme. Aujourd'hui, ce qui se fait, ce qui s'écrit sur le monde arabe, malheureusement, c'est de bout en bout politique. Où est l'esthétique ? Où est la composante esthétique ? Où est la musique ? Où est... C'est ça la question.
Où est le raffinement ? Où est l'hédonisme ?
Voilà.
Où est l'approche du plaisir, tout simplement, et du bonheur ? Mm. Pour revenir à son œuvre, et surtout comme poète, à juste raison, vous avez dit, Mahdi Qabbel, que son œuvre est polyforme, est polymorphe et protéiforme, il était avant tout poète. Alors, parlez-nous de Aya, une femme qui a comme prénom... Avant, à un moment donné, on a dit qu'il n'était pas répondu, mais je puis vous assurer que ce prénom commence à l'être un peu plus de nos jours. Mot qui renvoie au signe versé, mais au signe comme trace de la marque divine dans ce monde-ci. Donc cette notion de Aya, pour vous, c'est quoi ? C'est sa Béatrice à lui, pour Dante ? Ou est-ce que c'est Nidam, harmonie pour Ibn Arabi, dont il s'est inspiré ? C'est vrai que sa proximité du grand maître andalou, Ibn Arabi, le plus grand métaphysicien de tous les temps pour certains, 1165-1240, quelle est cette proximité ? Parce que d'aucuns disent « Ah oui, mais il ne connaissait pas bien Ibn Arabi », d'autres disent « Non, il l'a fréquenté comme il faut, nous aimerions avoir les idées claires ». D'abord par rapport au maître, et après on verra qu'il y avait d'autres figures, Nifari, Bestami, pour rester dans la mystique islamique.
Mmh. Alors, Aya, comme vous l'avez dit, renvoie au signe, renvoie également au miroir.
Et, la femme, Al-Mar'a.
Voilà, Al-Mar'a et Al-Mir'at en même temps. Parce qu'il y a un verset coranique... Aya li qawmin la ya'lamoun. C'est-à-dire, c'est un signe. Et en même temps, il y a quelque chose du miroitement, parce que c'est cette femme idéale, impossible d'ailleurs, que les poètes célèbrent. C'est Leïla de Qais, c'est Béatrice de Dante, c'est Diotima de Hölderlin,
et Elsa
d'Aragon. C'est-à-dire toutes ces figures de la féminité qui appellent le désir et le plaisir restent quand même de l'ordre du métaphysique. Et évidemment, Meddeb a été très sensible à Nidam, cette figure de cette femme pour laquelle Ibn Arabi a écrit ce magnifique texte, l'interprète des désirs, des ardents désirs.
L'interprète des désirs ardents.
Ou des désirs ardents, Turjuman al-Ashwaq, qui sort un peu de l'œuvre de Ibn Arabi comme une déflagration, parce que c'est un poème qui, en même temps, un récit sur cet amour que vous, d'une manière passionnée et passionnelle, Ibn Arabi pour une femme. Donc, Meddeb réactive justement cet amour impossible, cet amour dans lequel la femme s'évanouit pour réapparaître. Et donc, là, on est dans quelque chose de l'ordre du soufisme, mais d'un soufisme transcendant qui donne à la femme toute sa plénitude. Rares d'ailleurs les soufis qui, dans leur écriture, dans leur pensée, parlent de la femme. Ibn Arabi, je pense que est une des exceptions dans le corpus mystique en terre d'islam. Et évidemment, Ibn Arabi, dans l'œuvre, est considéré comme, par Michel Sudkovitch, comme un océan sans rivage, puisqu'elle comptabilise à peu près son œuvre, elle comptabilise près de 584 ouvrages, voire plus.
Certains y vont jusqu'à 800, mais comme on n'a pas tout reçu, on reste à ce demi-millier.
Voilà, donc c'est une œuvre qui est très diversifiée, éclatée, et aussi c'est une œuvre qui n'a pas encore été épuisée au niveau de l'interprétation, au niveau de l'approche et au niveau de la lecture, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, et les Ibn Arabistes,
les Akbariens,
donc n'ont pas tout à fait épuisé la richesse de son œuvre. Abdouhab Meddeb, il a...
Pardon, je voulais simplement expliquer à nos amis auditeurs qu'un Akbarien, c'est celui qui suit le Cheikh Al-Akbar, le plus grand maître. C'est comme ça qu'on désigne ceux qui sont férus de l'œuvre du maître Ibn Arabi. Donc, Abdelwahab Meddeb, en est un.
En est un, d'une certaine manière. Mais même si on ne peut pas dire que son approche est celle d'un Michel Sudkovitch, par exemple, ou d'autres.
Ou de sa fille, Claude
Hadass. Parce qu'eux sont vraiment des aquariens qui ont suivi la voie et pratiqué vraiment le travail et aussi la fusion avec l'œuvre d'Ibn Arabi. Abdelwahab Meddeb, c'est comme, il a un rapport à Ibn Arabi comme si son œuvre était un écho qui agissait chez lui dans son écriture et qui lui permettait de lire les textes occidentaux, les textes des poètes européens et de les alimenter en quelque sorte par le travail de Ibn Arabi. Donc il y a quelque chose de d'un travail de fusion. Et Ibn Arabi, il servait à Meddeb de détonateur dans ces textes-là. Et puis, évidemment, il accompagnait à un moment où les intellectuels étaient arabes ou les intellectuels arabo-musulmans étaient beaucoup plus pris par le travail d'interprétation politique, que ce soit le nationalisme, que ce soit le socialisme. Et lui, il orientait sa recherche vers le soufisme. Et c'est quelque chose qui me paraît vraiment singulier et qui me paraît intéressant à ce niveau-là. Parce que qu'est-ce qui reste du travail accompli par tous ces sociologues, anthropologues sur le nationalisme arabe, sur rien, puisque ces systèmes se sont affaissés, alors que Ibn Arabi, aujourd'hui, est en train de devenir un référent majeur dans notre espace, dans notre culture, au même titre d'ailleurs que le soufisme. À l'Institut du monde arabe, quand j'organise par exemple une rencontre autour du soufisme, n'importe quel soufi,
Parce qu'il faut dire que vous vous occupez de l'action culturelle au sein de cette institution.
Donc, il y a un engouement pour le soufisme, pour Ibn Arabi, pour Bistami, pour Nifari, pour tous ces...
En tout cas, ces trois noms sont ceux qui ont inspiré davantage Abdelwahab Meddeb pour son œuvre, notamment poétique. Et il se trouve qu'Abdelwahab Meddeb a écrit aussi à propos de l'islamisme, quelle que soit sa veine. Et donc, son livre « La maladie de l'islam » a été au centre d'enjeux et de polémiques, ceux qui l'ont encensé, et non sans raison, d'autres l'ont décrié, je ne parle même pas des islamistes, et sur le plan où il était du point de vue des académiciens, critiqué, c'était qu'il y aurait eu, j'utilise le conditionnel parce que je parle sous votre contrôle, une sorte d'essentialisme dans sa présentation de la maladie de l'islam.
Oui, la maladie d'islam constituait un tournant dans
en 2002.
En 2002, dans le parcours et dans le travail de Meddeb. D'ailleurs, à tel point que beaucoup de ses amis ou beaucoup de ceux qui suivaient son travail ont été vraiment surpris par, disons, cette tournure ou ce tournant dans son travail. Pourquoi Abdelwahab Meddeb tout à coup se tourne, comme le font d'ailleurs de nombreux communicants, ce qu'on appelle les communicants ou des experts autoproclamés de la chose islamique.
Alors qu'ils sont des politistes ou des anthropologues ou des sociologues et du coup ils deviennent des islamologues.
Voilà, c'est vraiment le tort ces approches ont porté tort à l'islam, ont porté tort à l'étude, aux études de l'islam, et on se retrouve face à des interprétations sommaires, à des a priori, à des raccourcis. Et donc, ceux qui connaissaient Meddeb ont été, comme je l'ai dit, surpris, et donc sont posés des questions. Et la maladie de l'islam, effectivement, on peut percevoir une approche essentialiste, puisque Abdelwahab Meddeb attribue la question de la violence au Coran, c'est-à-dire
manière intrinsèque.
Intrinsèque. C'est-à-dire, la violence, elle gît à l'intérieur même du texte, elle est là, et il faut expurger donc le Coran de ces textes-là. D'ailleurs, c'est ce qu'avancent de nombreux experts autoproclamés aussi. Et donc, il rejoint ces interprétations. Évidemment, tous les textes qui sont venus après, que ce soit
Contre-prêche,
par exemple, que ce soit une série de chroniques assurées sur la station Mehdi 1, ou face à l'islam, sorte de livre entretien aussi dans lequel il demande à ce que l'islam se convertisse à la démocratie
et à la modernité.
Et donc tout ça, c'est un travail qui a surpris et avec beaucoup de courage, d'ailleurs, Abdelwahab Meddeb
l'assumait. Oui. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui de Abdelwahab Meddeb, non seulement comme le producteur originel de cette émission du temps où elle était Culture d'Islam, mais aussi de son œuvre, de sa pensée. Vous allez nous dire, Mahdi Qabbel, s'il en avait une véritablement. Vous êtes journaliste vous-même, écrivain, essayiste. Et nous parlons de votre ouvrage puisque vous avez consacré une monographie à Abdelwahab Meddeb, parti trop tôt d'ailleurs. Donc, il prend résolument la partie pour les droits fondamentaux de la personne humaine, de la modernité, de vouloir guérir la tradition religieuse de sa maladie. Comment tout ça était déjà perçu? Même, je ne parle même pas des contextes arabo-islamiques, je parle en Europe et en France.
En France, Abdelwahab a eu une réception assez positive, puisqu'il il a été, je dirais, entre guillemets, coopté par les médias. Il a été aussi soutenu dans sa démarche par des intellectuels français. Voilà, à titre d'exemple, Jean-Luc Nancy, ainsi que la revue Esprit, d'ailleurs, il en était un contributeur. Puis aussi d'autres supports qui ont soutenu et aidé Abdelwahab Meddeb. C'est-à-dire le réseau qu'il a lui-même constitué, qu'il a lui-même mis sur pied à un moment où il essayait d'avoir une visibilité en tant qu'écrivain et intellectuel. Il a trouvé donc ce réseau pour l'écouter, pour appuyer sa démarche et pour le soutenir. Et donc, ses livres, il faut dire aussi que pas n'importe quel écrivain maghrébin peut soumettre et publier ses livres aux éditions du Seuil, puisque il a tout à fait au début, en tant que poète, il a publié aussi dans de prestigieuses maisons d'édition, Art Fuen, ou chez d'autres éditeurs qui sont très, très, très connus. Donc, Abdelwahab Meddeb, en France, était chez lui. Il était, faisait partie de la scène culturelle parisienne. Il n'était pas un étranger.
Et les voix discordantes comme Alain Grèche ou Vincent Jesser, c'était toujours sur la question de l'essentialisme.
Tout à fait. Il lui reprochait justement son essentialisme et aussi son non-engagement sur la question des droits de l'homme en Tunisie. Donc ce sont des reproches d'ordre idéologique, d'ordre politique. Mais ces livres ont commencé à être diffusés un peu partout en Europe par des traductions. Et,
oui. Et ces romans comme Talismano, comme Fantasia, aussi sur le plan purement romanesque et de ce côté-ci, ont joui d'une bonne réception.
Il faut dire que Abdelwahab Meddeb n'est pas Kateb Yassine, n'est pas Tahar Ben Jelloun. Son écriture, elle est beaucoup plus ardue. C'est une écriture qui est complètement déconstruite, même en son autobiographie, c'est-à-dire qui est constituée par Talismano et par aussi ce travail de retour sur les traces et sur d'enfance et sur son retour au pays reste quand même assez un texte assez fermé, assez il faut vraiment le décortiquer. Et d'ailleurs il y a des travaux universitaires qui ont fait ce travail. Il y a pas mal
de thèses
qui lui ont été consacrées. Ces romans sont moins connus que ces essais, parce que ces essais répondent à une, pour contextualiser, répondent à une période. On n'est pas encore sorti de cette période. Il reste toujours d'actualité. C'est ça le l'intérêt donc de ces textes. On peut les ne pas être d'accord avec ces textes, mais ils posent un certain nombre de questions. Ils touchent des questions qui sont propres à l'islam, à la croyance, au sacré et aussi au sujet. Pourquoi le sujet ? Parce que Abd al-Wahhab, il avait toujours le souci de sortir les sociétés arabo-musulmanes du patriciel pour donner la possibilité à l'individu et au sujet d'émerger et de se constituer. Et c'est ça, à mon sens, l'intérêt du travail de Abd al-Wahhab Meddeb et ce souci, comme dirait, enfin, pour reprendre un peu un terme de Foucauldien, ce souci, il vient aussi du fait qu'il a, il s'est continué les textes soufis, par exemple, comme quelqu'un comme Nifari, et tout son travail est orienté vers justement la je dirais entre guillemets la fabrique du sujet, c'est-à-dire se constituer en tant que sujet sur les marches.
On trouve cela dans le livre des Haltes de Nifari.
Voilà.
Il s'en était inspiré.
J'ai traduit d'ailleurs...
Vous-même, oui, le livre des Haltes. Vous avez beaucoup de mérite, d'autant plus qu'on connaît très peu de choses sur la vie de l'homme. Et même si l'ouvrage a marqué par la suite, et là, les intellectuels vous en savent gré d'avoir traduit l'ouvrage. Le livre des Haltes ou le livre des Stations. Marty Kabel, vous avez évoqué dans la monographie que vous avez consacrée à Abd al-Wahhab Meddeb un extrait de la polémique ou de la controverse ou du débat emporté qui a eu lieu sur une chaîne de télévision publique entre lui et Tariq Ramadan. Quelle a été d'abord votre interprétation à vous-même et puis comment ceci a été perçu par la suite? J'ose ajouter moi-même que nous n'étions pas dans une situation symétrique. Vous le dites dans l'ouvrage qu'il y avait d'un côté un idéologue activiste et de l'autre un intellectuel. Est-ce que c'est comme ça que les choses se présentaient?
Oui, c'est un peu ça. Ce débat, Abd al-Wahhab, comme je l'ai dit, avait beaucoup de courage. Il y allait. Il pensait que aller dans un débat, c'était un combat. C'est entreprendre. C'est comme il était en guerre contre quelque chose qui était agressif, quand même. Quelque chose qui était mortifère. Et donc, il fallait prendre position, il fallait s'engager corps et âme dans ce combat. Alors, c'est pour cela que quelqu'un d'autre aurait calculé d'abord avant de s'engager face à un Tariq Ramadan qui était un rhéteur, un idéologue et quelqu'un qui avait la ruse et la maîtrise de la ruse. Donc, Abd al-Wahhab Meddeb, je dirais, a foncé, tête baissée, par principe. Et par principe, et puis par conviction pour le débat. Parce qu'on ne peut pas s'engager comme ça dans le débat, main nue. Il faut connaître l'adversaire. Et donc, c'était assez déséquilibré dès le départ, à mon sens.
Puis il y a une virulence des propos. L'un qui dit à l'autre, c'est votre grand-père qui a distillé le poison, et l'autre qui lui dit, mais vous soutenez l'administration Bush.
Oui, hein, voilà.
Donc,
oui.
Pour résumer les propos.
Oui, c'est-à-dire, bon, phrase. Ça a tourné au pugilat, hein, parce que c'était pas un débat qui allait au fond des choses. D'un côté, Medeb pensait qu'il allait débattre avec quelqu'un qui avait des idées, qui pouvait défendre ses idées. L'autre, il lui tendait des pièges. Donc, voilà, c'était assez déséquilibré. Et je pense qu'il faut mettre la chose dans ce face-à-face, dans son contexte, puisque aujourd'hui, l'islam occupe la scène du débat. Je pense que d'ici un mois ou un mois et demi, on va vers, encore une fois, un débat sur la loi 1901, sur la question de la laïcité. Ça se prépare.
Oui, à la fois 1901 et 1905.
1905.
Parce qu'il y a aussi le fait de passer les associations loi 1901 pour les questions cultuelles en loi 1905. Mahdi Qabel, nous arrivons au terme de notre émission. Nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder sa réception, et notamment dans les contextes islamiques, et la non-traduction de son œuvre en arabe. Vous avez des idées très intéressantes là-dessus. Je renvoie nos auditeurs à lire votre ouvrage que vous lui avez consacré. Merci, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis aussi fidèlement. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
J'ai soif et froid au fond d'un trou ou dans le Sahara. Je sais qu'il n'y a pas que moi, je suis plusieurs dans ce cas-là. Quand je pleure et qu'on ne m'entend pas, quand je me rebelle et qu'on me bat, quand je me bats et qu'on me broie, je suis plusieurs dans ce cas-là. Chante avec moi, chante avec moi. Viens mon ami, assieds-toi près de moi. Chante avec moi, chante avec moi. La musique matará la omerta. Chante avec moi, canta hermano, toma tu guitarra. Chante avec moi, on va faire taire ces chiens qui aboient. C'est au malfrat et qu'on ne me laisse pas d'autre choix. Que d'être imparfait hors la loi, je suis plusieurs dans ce cas-là. Quand je souffre et qu'on le voit, et que ça fait partie du climat, que les gens se pressent autour de moi, je suis plusieurs dans ce cas-là. Chante avec moi, chante avec moi. Viens mon ami, assieds-toi près de moi. Chante avec moi, chante avec moi. On va faire taire ces chiens qui aboient. Chante avec moi, chante avec moi. Canta hermano, toma tu guitarra. Chante avec moi, chante avec moi. Pour ceux qui ne veulent pas marcher au pas. Avec les rats et qu'on m'enchaîne. troubler le sommeil des bourgeois. Je suis plusieurs dans ce cas-là. Quand mon enfant meurt près de moi et que la guerre arrache mon toit, quand je sais que je n'ai aucun droit, je suis plusieurs dans ce cas-là. Chante avec moi, chante avec moi. Viens mon ami, assieds-toi près de moi. Chante avec moi, chante avec moi. La musique m'a dit à l'homme.